Et merci d'être avec nous à midi et demi, temps universel, 14h30 à Pretoria, c'est l'heure d'Afrique Midi, toute l'actualité africaine avec vous, Simon Bourtembourg, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en effet ensemble pour une demi-heure avec le journal pour commencer et à la une de cette édition, la réaction de l'Afrique du Sud après l'expulsion de son ambassadeur aux États-Unis. Le diplomate n'est plus le bienvenu à Washington et est dorénavant considéré comme persona non grata. Une décision regrettable, juge Pretoria qui se dit toujours déterminé à construire une relation mutuellement bénéfique avec l'administration américaine. Le président angolais plaide aujourd'hui pour un cessez-le-feu dans l'est de la RDC et ce à partir de demain minuit. Dans ce contexte, tous les regards sont évidemment braqués sur Luanda. Avec cette question, une délégation congolaise fera-t-elle le déplacement mardi dans la capitale angolaise? À la une de cette édition également, ils ont 3 mois pour se remettre en règle. En Guinée, les partis d'Alpha Condé, de Sidia Touré sont suspendus par la junte au pouvoir. L'UFDG échappe quant à elle à la suspension et ce à condition d'organiser un congrès d'ici 60 jours. Et puis, dans ce journal, un reportage nous seront à Bangui, où les conséquences de la récente panne d'électricité sont partout. Et puis, la littérature africaine à l'honneur en France avec le dernier week-end du Salon du Livre Africain de Paris. Une nouvelle étape dans les tensions diplomatiques entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Alors que Donald Trump avait déjà signé un décret interrompant formellement toute aide américaine à Pretoria, désormais l'ambassadeur sud-africain est déclaré persona non grata à Washington. Il est accusé de nourrir la haine raciale envers les États-Unis et envers le président Trump. Le diplomate avait de son côté qualifié la politique du républicain de politique de suprématie blanche. L'Afrique du Sud a donc réagi ce matin, Valentin Hugues.
La présidence sud-africaine a réagi de façon très brève, tout comme le ministère des Affaires étrangères, en prenant acte d'une décision qualifiée de regrettable. Vincent Magwenya, porte-parole du président.
La présidence demande instamment à toutes les parties prenantes et concernées de maintenir le décorum diplomatique auquel il s'était engagé précédemment. L'Afrique du Sud reste déterminée à construire une relation mutuellement bénéfique avec les États-Unis d'Amérique.
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a utilisé X pour annoncer la nouvelle. Ces tensions par réseau social interposé sont devenues monnaie courante depuis la réélection de Donald Trump. Une diplomatie en ligne qu'analyse le docteur Kingsley Makubela, ancien diplomate et spécialiste des relations internationales.
Conformément à la Convention de Vienne, s'il y a un différend entre États, vous communiquez par les voies diplomatiques classiques. Avec l'administration Trump, on observe une tendance à utiliser les réseaux sociaux. Je pense que l'ambassadeur s'est mal comporté. Vous ne pouvez pas vous en prendre à votre président hôte. Seulement quand il y a de bonnes relations, si un ambassadeur se comporte mal, on demande au pays de le rappeler. Nous connaissons les tensions entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. C'est peut-être ce qui explique cette réaction.
L'Afrique du Sud n'a pas précisé les détails du retour d'Ebrahim Rasoul. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Le président angolais plaide pour un cessez-le-feu dans l'est de la RDC et ce à partir de demain minuit. João Lourenço a exhorté donc ce samedi les parties en conflit à faire taire les armes. Selon un communiqué de la présidence angolaise, cette trêve doit inclure l'arrêt des attaques contre les civils et l'interdiction d'occuper de nouvelles positions. L'initiative vise donc à faciliter les discussions directes prévues le 18 mars, mardi donc à Luanda entre Kinshasa et l'AFC M23. Aucune réaction des deux camps n'a pour l'heure été enregistrée. Dans ce contexte, tous les regards sont donc braqués sur la capitale angolaise avec cette question. Une délégation congolaise fera-t-elle le déplacement mardi à Luanda? Si la présidence congolaise dit avoir pris acte de l'invitation, pour l'instant, Kinshasa n'a pas confirmé sa participation. Pauline Azidi.
Pas encore de clarification du côté de la présidence congolaise sur une éventuelle participation à la table des négociations. Pourtant, plusieurs analystes attendaient beaucoup du compte-rendu du Conseil des ministres de ce vendredi, mais le sujet n'a pas été abordé par le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, qui assure, je cite, que le président a rappelé sa détermination à mettre tout en œuvre pour que nos populations sous occupation actuellement puissent être libérées très rapidement. Fin de citation. Le sujet des négociations directes reste sensible. Il faut rappeler que c'est en effet la ligne rouge de Kinshasa depuis maintenant 3 ans et le début du conflit. Pour la RDC, ces discussions ne peuvent se faire qu'au travers des processus déjà mis en place. Il y en a deux qui ont récemment été joints, celui de Luanda qui encadre les discussions entre Kinshasa et Kigali, et celui de Nairobi qui réunit à une même table les groupes armés ayant déposé les armes et le pouvoir central. L'équation, notamment pour la médiation angolaise, est donc d'essayer d'inscrire la séquence à venir dans ce cadre. Pauline Azidi, Kinshasa. RFI.
La RDC, où le conflit dans l'est du pays perturbe les opérations d'extraction des minerais. La mine d'étain de Bissié suspend ses activités pour raisons de sécurité, notamment face donc aux avancées du groupe armé M23. La mine de Bissié est considérée comme la troisième plus importante au monde en termes de production d'étain. 17 000 tonnes du minerai y ont été extraites l'année dernière, soit 6% de la production mondiale. Le gouvernement guinéen a présenté hier le rapport final de la campagne d'évaluation des partis politiques. Résultat, suspension pour 3 mois pour le RPG, l'ancien parti au pouvoir du président déchu Alpha Condé. Même traitement également pour l'UFR de l'ex-premier ministre Sidi Yatouré. En revanche, le parti de l'UFDG, principale force d'opposition, peut continuer ses activités, mais à une condition, celle d'organiser un congrès, et ce avant les 2 prochains mois. Les détails avec Mouktar Ba depuis Conakry.
C'est officiellement pour assainir l'espace politique guinéen que le ministère de l'administration du territoire a procédé à cette évaluation, explique Madame Camara Diana-Boutouré, la directrice des affaires politiques du dit département.
Quelqu'un qui a passé 50 ans à gérer son parti sans pouvoir céder, donc ça veut dire que c'est une entreprise personnelle. Quand il arrive au pouvoir, je vous dis, ne vous attendez pas à avoir de la démocratie au sommet de l'État.
En réaction, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, l'une des principales forces politiques du pays, mis sous observation pour 45 jours, croit plutôt à une diversion. Joachim Baba Milimono, le chargé de la communication.
Quelque peu déçu, mais plus ou moins satisfait du résultat. Mais aussi inquiétant. Pourquoi ? Cela pourrait s'apparenter à un processus d'épuration masquée de la classe politique, une manière probablement de mettre à la touche ou à la retraite un certain nombre de leaders jugés gênants.
L'UFR de l'ancien Premier ministre Sidi Yatouré a été suspendu et interdite d'exercer toute activité politique pendant 3 mois, le temps de remplir les conditions exigées. Fode Baldé, porte-parole du parti, réagit.
La volonté n'est rien d'autre que de faire en sorte de créer les conditions pour que le CNRD soit seul sur le terrain et consolider son pouvoir acquis par les armes. C'est ce qui est regrettable.
Selon le ministère de l'administration du territoire, 75 partis sont autorisés à poursuivre leurs activités politiques et 24 autres sont en sursis. Mouktar Ba, Conakry, RFI.
La réaction de l'ONG Human Rights Watch aujourd'hui après les exactions commises en début de semaine contre des civils dans l'ouest du Burkina Faso. Les autorités doivent enquêter de manière impartiale et poursuivre de manière appropriée tous les responsables de ces crimes graves, a déclaré Human Rights Watch. Des vidéos relayées sur les réseaux sociaux montraient des dizaines de corps ensanglantés jonchant le sol. Ces exactions ont été qualifiées de manipulation par les autorités du Faso. La tension monte d'un cran, cette fois entre les autorités nigériennes et les investisseurs chinois. 3 dirigeants de sociétés pétrolières ont été expulsés par les autorités. Aucune explication n'a pour l'heure été donnée. Mais ces expulsions interviennent après que le gouvernement nigérien a retiré en début du mois sa licence à un hôtel de luxe chinois. Et pour l'enseignant-chercheur Abdoulaye Sounaï, la gestion des partenariats est devenue un sujet important pour les régimes de la sous-région et le Niger ne fait pas exception.
On l'a vu avec le Mali, le Burkina et d'autres pays aussi qui sont en train de vouloir renégocier les termes des coopérations qu'ils entretiennent avec certains pays, surtout à travers les compagnies ou les sociétés qui sont installées dans ces pays. Bon, le cas de la Chine est très intéressant dans le contexte actuel, en tout cas pour le Niger, parce que la Chine, c'est le principal partenaire. Le pétrole, en particulier, c'est la première ressource d'exportation. Alors, évidemment, dans ce contexte, le Niger voit gros. Il ne faut pas oublier que le Niger aussi a quelques soucis en matière de ressources financières et qu'à travers ces différends-là qui remontent aujourd'hui à la surface, le Niger voudrait quand même retrouver quelques ressources pour s'occuper de certaines dépenses Mais évidemment, les risques de cette politique-là, c'est que, bon, je ne sais pas si le Niger est en bonne posture pour gérer ces conflits dans les termes qu'il voudrait.
À des propos recueillis au micro RFI de Magali Lagrange. Marine Le Pen, la présidente du groupe parlementaire du Rassemblement National, est en visite parlementaire au Tchad. Elle est arrivée hier soir à N'Djamena, où elle a été accueillie notamment par le secrétaire général du Mouvement Patriotique du Salut, le parti au pouvoir dans le pays. Les relations entre nos deux pays et plus généralement entre la France et l'Afrique se sont fragilisées ces dernières années. Nos liens d'amitié doivent être retissés, a déclaré Marine Le Pen. Ce matin, elle a pris un vol pour se rendre à Amdjaras, où Mahamat Idriss Déby, le chef de l'État, réside pendant le Ramadan. Marine Le Pen doit donc le rencontrer dans le cadre d'une visite de courtoisie. Elle sera ensuite de retour à N'Djamena cet après-midi pour une visite à l'Assemblée nationale. RFI 13h40 à Bangui, où les conséquences de la récente panne du réseau électrique se font encore sentir. Après avoir plongé dans le noir il y a quelques jours durant plusieurs jours du con, les habitants de la capitale centrafricaine sont maintenant privés d'eau potable. Plus une goutte d'eau ne sort des robinets. Alors certains Banguissois sont contraints à boire de l'eau de mauvaise qualité. Ils s'exposent donc ainsi à diverses maladies. C'est ce qu'a constaté pour nous Rolf-Steve Domialu.
Devant une fontaine du quartier de Transibila, une longue chaîne de personnes. Depuis 5 jours, aucune goutte d'eau n'est tombée du robinet. Debout à côté de son pouce-pouce, Jacques patiente sous le soleil.
Nous avons un sérieux problème d'eau. On veut avoir accès à l'eau potable. Vous voyez la situation de nos enfants, de toutes ces femmes qui n'ont rien à boire. On dit souvent que l'eau, c'est la vie. Mais si la population n'a pas d'eau, comment faire?
La situation est pire dans le nord de la capitale. Armés de bidons, des jerrycans et de seaux multicolores, hommes, femmes et enfants parcourent des kilomètres pour chercher de l'eau. L'air fatigué, abîmé et désespéré.
Nous consommons de l'eau souillée. Nous sommes obligés d'utiliser l'eau des puits et des cours d'eau pour nos travaux ménagers. À force d'utiliser de l'eau contaminée, nous sommes exposés aux maladies d'origine hydrique.
Au centre-ville, le précieux liquide coule depuis 20 minutes. Mais pour combien de temps, Sonia n'en sait rien. Ça fait 8 heures qu'elle patiente dans la queue.
Imaginez une famille de 8 personnes qui ne possèdent pas l'eau courante. Comment faire la cuisine, la lessive, aller aux toilettes, se laver? Je marche dans le quartier depuis 3 heures du matin pour trouver de l'eau. C'est vraiment triste.
Selon une source à la Sodeca, la société de distribution d'eau en Centrafrique, les problèmes d'électricité enregistrés ces derniers jours dans la capitale empêchent la société de bien fonctionner. Rolf Esteve Demialeu, Bangui, RFI.
Le virus a fait plus de 15 000 morts sur le continent africain depuis 1976. Il n'existe pour l'heure pas de vaccin contre Ebola, mais une étude américaine suscite des espoirs sur un éventuel traitement. Des singes infectés par le virus Ebola ont en tout cas été soignés à l'aide d'un simple comprimé. Bonjour Laura Martel.
Bonjour.
Laura, ces avancées pourraient ouvrir la voie à des traitements plus pratiques et abordables chez les humains.
Oui, alors pour combattre Ebola, il y a bien un vaccin Ervebo qui a été préqualifié par l'OMS depuis 2019 et déjà utilisé en RDC et en Guinée par exemple. Mais le problème, c'est qu'il n'est efficace pas contre toutes les souches du virus et notamment pas contre celle appelée Ebola Soudan qui est responsable de l'épidémie qui touche actuellement l'Ouganda. Deux traitements par anticorps existent également, mais eux aussi ne marchent que sur la souche Ebola Zaïre. Et en plus, il faut les administrer par voie intraveineuse, c'est-à-dire qu'il faut les injecter dans la circulation sanguine. Ce mode d'administration complexe, plus des coûts qui restent élevés, rendent ces traitements peu adaptés aux régions les plus pauvres. D'où l'intérêt de cette étude qui porte sur un traitement antiviral sous forme de comprimé à avaler. Cet antiviral, c'est l'obeldesivir, la forme orale d'un médicament utilisé contre le Covid-19. Testé sur 2 espèces de macaques infectées avec une forte dose du Macona, un variant d'Ebola Zaïre, eh bien, il a guéri 100% des macaques rhésus, l'espèce la plus proche des humains, mais aussi déclenché la production d'anticorps pour combattre la maladie, ce qui pourrait permettre de l'utiliser sur les cas contacts pour briser les chaînes de transmission. Une avancée prometteuse donc, d'autant que ce médicament, plus facilement stockable et administrable, semble aussi être efficace au-delà de la seule souche Zaïre. Des tests sont d'ailleurs en cours sur le virus Marburg, cousin d'Ebola.
Laura Martel, merci beaucoup. Et pour refermer cette première partie d'Afrique Midi, la littérature du continent à l'honneur, le Salon du Livre Africain se tient à Paris avec à l'honneur justement jusque demain les écrivains de 2 pays, le Cameroun et le Brésil. Olivier Roger.
Bienvenue sur le stand de Akomamba, maison d'édition jeunesse installée à Yaoundé.
Robert Nkwamou, imprimeur et éditeur, ne boude pas son plaisir de voir la littérature camerounaise mise ainsi à l'honneur au Salon du Livre Africain de Paris. Un événement indispensable pour des éditeurs africains qui peinent souvent à être distribués au-delà de leur frontière nationale. Isabelle Kassifofana, créatrice de Masaya Édition en Côte d'Ivoire.
C'est vraiment une bonne adresse. Ça nous permet, nous qui ne sommes pas forcément distribués ici, de pouvoir, l'instant de ce salon, de rencontrer des professionnels, de rencontrer un public qui est à la recherche aussi de nos ouvrages.
Et ce public, c'est souvent celui des diasporas vivant en France. Éric Monjour, créateur et directeur du salon.
La diaspora africaine en Ile-de-France est très nombreuse et je trouve que l'idée de leur proposer quelque chose qui les concerne très directement a vraiment eu une importance sur le succès du salon dès la première édition.
Bien entendu, le succès du salon tient aussi au foisonnement créatif littéraire actuel. L'Afrique n'a jamais autant lu et écrit qu'en ce début de XXIe siècle. De quoi réjouir la conteuse et autrice marocaine Halima Hamdan.
Et longue vie vraiment à ce salon qui mérite d'être un peu plus médiatisé, je dirais.
Le Salon du Livre Africain de Paris qui se referme donc demain soir. RFI, il est 12h45 en temps universel. La suite d'Afrique Midi avec vos chroniques du samedi.
Afrique Midi, Simon Bourtembourg.
Et d'abord, dans quelques instants, la une de Jeune Afrique qui a donné la parole au président béninois Patrice Talon. Nous serons avec François Soudan, directeur de la rédaction du magazine. À suivre également votre rendez-vous de la semaine avec Jean-Baptiste Placa. Notre éditorialiste maison reviendra sur la tournée du président ghanéen dans les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et puis, un mot, une histoire. Lucy Bouteloup reçoit aujourd'hui un romancier et dramaturge français. Et pour commencer, comme chaque samedi, la une de Jeune Afrique, François Soudan, directeur de la rédaction du JA, nous ouvre les pages du magazine. Il est au micro de Catherine Potet.
Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
C'est vous qui avez réalisé cette interview de Patrice Talon à Cotonou. Et vous l'avez d'abord interrogé sur l'arrestation il y a près de 6 mois et la condamnation en janvier dernier de son ancien bras droit, Olivier Boko, accusé de complot contre l'autorité de l'État. Le président béninois ne s'était pas exprimé depuis l'arrestation d'Olivier Boko. Alors, que vous a-t-il dit à ce sujet ?
C'est une affaire que Patrice Talon dit avoir vécue comme un drame, comme une tragédie intime. Olivier Boko, c'était un frère, un compagnon de fortune et d'infortune, avec qui j'ai vécu l'exil, la conquête, puis l'exercice du pouvoir. Et il ajoute cette phrase terrible, « Je m'en veux d'avoir contribué à faire de mon meilleur ami un monstre ». Car Patrice Talon, il en est persuadé, Catherine. Olivier Boko, à qui il avait délégué énormément de pouvoir, y compris celui de veiller sur sa propre sécurité, n'aurait pas supporté que le président contrevienne à son ambition de lui succéder en 2026, au point de préparer un coup d'État en entraînant dans cette aventure le chef de la garde républicaine, le colonel Tevo Ejray, lequel l'aurait en définitive piégé. Longtemps, dit Patrice Talon, j'ai été dans le déni avant de me rendre compte que ce n'était pas un caprice d'enfant gâté de sa part, mais une volonté déterminée d'exercer le pouvoir, tout le pouvoir, quitte à me déposer. Et quand je pose la question à Patrice Talon de savoir pourquoi il ne voulait pas qu'Olivier Boko soit en quelque sorte son dauphin, la réponse est la suivante. Pour le bien du Bénin, de la démocratie, il est inenvisageable que mon successeur soit issu de ma famille et de mon clan. Or, si un homme était de mon clan, c'était bien lui. À noter, Catherine, qu'au cours de son procès, Olivier Boko a nié à avoir projeté un coup d'État.
François Soudan, vous avez également abordé avec Patrice Talon la question de la recrudescence des attaques djihadistes dans le Nord, ainsi que les relations délicates entre le Bénin et ses voisins de l'Alliance des États du Sahel.
Oui, ces deux aspects sont liés aux yeux de Patrice Talon. Son armée, dit-il, est confrontée à des groupes terroristes qui évoluent en toute liberté dans des sanctuaires désertés par les forces de défense et de sécurité du Burkina et du Niger. Nous serions bien plus efficaces, dit-il, si nous pouvions les poursuivre au-delà de nos frontières pour les détruire. Hélas, nos relations avec nos voisins ne se sont dégradées et rendent la chose impossible. Alors Patrice Talon déplore qu'il n'y ait donc aucune coopération sécuritaire avec Ouagadougou et Niamey, malgré, dit-il, de multiples relances de sa part en ce sens. Et il en profite pour tordre le cou à la rumeur de réseaux sociaux. Il est vrai, accrédité, propagé par les présidents Tiani et Traoré eux-mêmes, selon laquelle le Bénin abriterait des bases d'entraînement de groupes armés destinés à déstabiliser ses voisins. Il n'y a rien de tel sur le sol béninois, affirme-t-il. En général, quand on dispose de ce genre de preuves, on les expose. Or, aucune preuve ne nous a été transmise.
Dernier point, François Soudan, il concerne bien sûr l'élection présidentielle de 2026. Patrice Talon sera-t-il candidat à sa propre succession? Eh bien, il se veut très clair, la réponse est non.
Eh oui, cette question m'agace, dit-il. Elle dénote le mépris que nous-mêmes et les autres avons de nos propres institutions. Est-ce que vous la poseriez sous d'autres cieux? Je ne le pense pas. J'ai moi-même renforcé la Constitution pour stipuler que nul ne pourra exercer plus de 2 mandats dans sa vie et je serai le premier à la violer une énième fois. Je vous l'aurais dit, non, je ne serai pas candidat. Alors, question, Catherine, qu'est-ce qu'il fera après? Sortir, me promener dans les rues, aller au marché, au cinéma, jouer à la pétanque. Tout ça, ça me manque, assure-t-il. Je suis pressé d'être le témoin des réalisations de mon successeur, qui, je le souhaite, fera mieux que moi. Je redeviendrai simple citoyen et je serai politiquement inexistant. Dont acte, Catherine, même si on imagine tout de même assez mal cet hyperactif qui aura alors 67 ans en paisible retraité.
Merci François Soudan. Cette interview de Patrice Talon est à retrouver sur jeuneafrique.com.
Et cet entretien mené donc par Catherine Potet est lui à réécouter sur notre site www.rfi.fr. RFI à 13h50 ici à Paris, la semaine de Jean-Baptiste Placa à présent, semaine marquée par la tournée du président ghanéen dans les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Le président ghanéen qui devait donc convaincre ces pays de retourner dans la CDAO, mais il a surtout appelé à une reconnaissance de l'AES par la CDAO. Alors Jean-Baptiste, a-t-il une chance d'être entendu ?
Dans cette communauté où certains chefs d'État ont une fâcheuse tendance à faire prévaloir leur agenda personnel sur les principes et objectifs communs, d'une manière ou d'une autre, il sera entendu. À quelques semaines de son demi-siècle d'existence, la CEDEAO pouvait espérer mieux que cette confusion, cette cacophonie. À la veille de sa tournée sahélienne, le dirigeant ghanéen avait reçu à Abidjan la bénédiction de son homologue ivoirien pour une ultime main tendue au pays frère visiblement dans l'impasse. Le président Ouattara s'attendait-il à ce que John Dramani Mahama, interlocuteur nouveau et théoriquement neutre, déploie plutôt une stratégie personnelle dans le seul intérêt du Ghana? Probablement pas. Mais comment oublier que cet homme a déjà perdu le pouvoir pour ses contre-performances économiques et la chute vertigineuse du Sidi, la monnaie ghanéenne? Comme si cette cour maladroite qu'il fait aux pays enclavés découlait d'une envie irrépressible de mieux réussir cette fois en économie.
Mais Jean-Baptiste, le président du Ghana est-il capable de sacrifier ainsi les règles et les principes de la CDAO et ce dans l'intérêt de son seul pays?
Aujourd'hui, tous les dirigeants peuvent tout sacrifier à l'économie. Le tort de la CEDEAO a été de brandir les menaces et de déclencher les sanctions contre les putschistes de l'Interland sans en avoir mesuré les conséquences pour leurs voisins côtiers. Exportateurs de matières premières, les États du Sahel sont surtout importateurs d'une multitude de produits arrivant par l'océan et pesant lourd dans le chiffre d'affaires des installations portuaires du golfe de Guinée, tout comme la petite économie des centaines de localités traversées jusqu'aux frontières du Burkina, du Mali et du Niger, transitaires et transporteurs routiers des pays de transit en profitent. Tous risquaient gros et ont partout beaucoup perdu, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin, au Nigeria. Seul le Togo a ramassé la mise dans cette crise de la gestion des putschs par la CEDEAO, qui aura au moins montré l'intérêt d'une communauté économique, l'utilité d'une union douanière. Pour le reste, sacrifier ces principes pour des gains économiques vous expose souvent au discrédit sans même vous garantir les parts de marché convoitées.
Et dans ce cas, faut-il craindre des conséquences pour la CDAO et même pour le président ghanéen ?
En faisant passer les putschistes pour des victimes innocentes, le dirigeant ghanéen a passablement terni l'image déjà dégradée d'une CDAO qui n'a fait qu'appliquer ses textes. Certes, elle n'a pas toujours montré le même zèle dans d'autres cas similaires, mais président d'une des démocraties les plus fiables d'Afrique, John Dramani Mahama ne pouvait s'autoriser cette apologie de fait comme si la baïonnette pouvait se substituer au bulletin de vote. Comme si cette épidémie de putsch n'affectait pas la crédibilité de cette communauté économique scrutée par les marchés financiers. Cela est d'autant plus désastreux que ce qui se joue ici est la signature des États, y compris celle du Ghana, qui n'a pourtant plus connu de coup d'État depuis 44 ans. pour avoir tour à tour connu le pouvoir et l'opposition, alterné échecs et victoires par la seule volonté des électeurs, John Dramani Mahama n'avait pas le droit de se muer ainsi en chantre des putschistes. Et même s'il devait en tomber amoureux, lui qui doit ses premières responsabilités politiques à Jerry John Rawlings devrait savoir distinguer les putschistes aux idées claires, capables de porter leur patrie sur la rampe de la démocratie et du développement, des aventuriers qui s'emparent du pouvoir avant de commencer à improviser un avenir pour eux, plutôt que pour leur peuple.
Jean-Baptiste Placard, que vous pouvez également lire, et ce quand vous le voulez, sur notre site et nos applications. Chanteur, poète, écrivain, traducteur ou philosophe, mais surtout tous amoureux de la langue française. Il parle au micro de Lucie Bouteloup d'un mot qui leur est cher et de ce qui leur évoque. Aujourd'hui, Lucie reçoit un romancier français à succès.
C'est le Pierre Richard des mots, c'est aussi l'espoir d'un ailleurs, c'est le fantasme aussi d'une certaine manière, et puis c'est tout ce qu'on peut espérer dans la vie.
Il a publié une vingtaine de romans, mais il est aussi scénariste et réalisateur. Parmi ses livres les plus connus, il y a La délicatesse, qui lui a valu pas moins d'une dizaine de prix littéraires et qu'il a adapté comme trois autres de ses romans au cinéma. Et puis on pense aussi à Charlotte, Le potentiel érotique de ma femme, Les souvenirs ou encore Le mystère Henri Pic. Cette année, David Fuenquinos revient avec un nouveau roman, c'est Tout le monde aime Clara, l'histoire d'une jeune fille qui, après des mois de coma, se découvre des dons de voyance. Comme quoi, tout peut arriver. Un peu comme avec le mot dont il a choisi de nous parler pour cet épisode.
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Je vais vous parler du mot « peut-être ». Mais d'abord, je l'adore visuellement. Et pour moi, il y a une beauté comme ça, esthétique, à la lecture des mots. Et je trouve qu'il visuellement exprime parfaitement ce qu'il est, c'est-à-dire ces deux mots avec ce trait d'union, un peu comme un pont entre les deux possibilités. Peut-être, donc pouvoir être. Et peut-être, à mon sens, évoque cette façon positive de voir le monde, d'imaginer la possibilité qu'on puisse vivre des choses. Et peut-être que quand on est... je viens de dire peut-être. Quand on est romancier, finalement, le but, c'est de chercher toutes les possibilités des actions entre les personnages, tous les peut-être possibles.
Peut-être c'est ce qui pourrait advenir, mais il y a une forme de mystère, on ne sait pas.
Oui, c'est vrai, mais quand on écrit, on est dans un aller-retour permanent entre une forme de certitude de soi par moment. On a le sentiment de tenir quelque chose, et puis le doute permanent. Et donc, cet aller-retour se traduit par le peut-être. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas asséner des vérités, des certitudes. J'adore le doute.
Donc, vous êtes auteur, vous écrivez aussi des films. Est-ce que c'est une façon pour vous d'envisager les autres histoires, c'est-à-dire celles que vous ne racontez pas?
C'est vrai que inconsciemment, faire vivre des personnages, c'est les faire exister aussi en dehors de nous. Moi, je reçois beaucoup de messages. Parfois, on me demande d'écrire la suite de certains romans. Et je dis que non, chacun peut potentiellement imaginer la suite des romans. Mais il y a cette forme d'échappatoire de ce qui existe déjà. Et finalement, c'est peut-être une évocation aussi des vies parallèles, de l'infidélité à nous-mêmes, de l'imagination, de l'ailleurs, du divertissement.
Et puis enfin, il y a aussi, avec cet adverbe, une idée d'approximation. À ce dîner, il y avait peut-être 20-30 personnes.
Ah oui, c'est vrai, c'est quelque chose que j'aime bien. Mon dernier roman commence par cette phrase. Alexis était probablement un homme de 50 ans. Donc finalement, définir les choses est la chose la plus compliquée qu'il puisse être. Et c'est vrai que j'aime bien les approximations parfois. J'adore les gens maladroits. Est-ce que peut-être c'est pas le mot qui pourrait définir aussi un geste maladroit aussi?
Selon le dictionnaire Larousse, peut-être est un adverbe qui marque la probabilité. Il peut aussi indiquer une approximation ou, s'il est placé en fin de phrase, le défi.
C'était un mot, une histoire.
Un mot, une histoire avec Lucie Bouteloup. Et c'est ainsi que se referme cette édition d'Afrique Midi réalisée par Benoît Raymond. Karine Franck était à la rédaction en chef avec Cécile Périard. L'actualité africaine, elle est de retour sur RFI à 18h30 TU. Mais avant ça, comme toutes les heures sur la Radio du Monde, le journal international en français, sauf en Afrique de l'Ouest où vous attendent 30 minutes d'information en full day, et en Afrique lusophone où vous avez rendez-vous avec une demi-heure d'information en portugais. Restez bien à l'écoute.
l'épopée des musiques noires.
Né à Accra au Ghana en 1980, le chanteur Miles Sanko a une obsession, faire paraître 15 albums avant ses 60 ans. Let It Unfold est son cinquième disque. Parviendra-t-il à atteindre son but ? En attendant, ce maestro de l'art vocal s'épanouit dans plusieurs univers musicaux, de la pop soul au jazz de tradition américaine. Il sera bientôt en concert à Paris et dès ce week-end avec Joe Farmer dans l'épopée des musiques noires, tout à l'heure à 13h30 TU.
RFI. La marche du monde, Valérie Nivelon.
Qu'est-ce que le franc CFA ? Par quel bout la prendre cette histoire que l'on ne comprend pas ? Avec Cathy Lennan Ndiaye, réalisatrice du documentaire L'argent et la liberté, une histoire du franc CFA, nous remontons le fil de notre longue histoire commune. Une invitation à accepter le dur labeur de contester le savoir acquis.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
À tout à l'heure, à 14h10, temps universel sur RFI.